17h passées, vous êtes dans votre émission Sortez sur Radio Campus 99.5 et nous sommes mercredi et qui dit mercredi dit la chronique de Julien. Bonjour Julien.
Salut Chloé, bonjour à tous. Alors dans cette nouvelle chronique de Julien, on va parler cette semaine de la pollution plastique et plus particulièrement de celle des pailles en plastique. Car j'ai vu passer une info dans ce sens qui concerne le géant américain du fast-food McDonald's. Est-ce que Chloé, t'en as entendu parler de cette info par rapport à McDonald's ?
Oui, maintenant ils mettent des couvercles et ça fait débat.
Exactement. Alors donc depuis le 18 novembre 2019, dans les 1470 McDo de France, il y a un nouveau gobelet qui est arrivé. Alors il a une particularité, c'est qu'il n'y a plus de paille. Donc en fait il y a une sorte de bec verseur, je ne sais pas comment on peut appeler ça, qui permet donc de boire à ce gobelet. Ça a donc pour but de réduire le plastique présent dans les emballages, car selon une étude, la chaîne de restaurants McDo distribuerait près de 3,2 milliards de pailles en plastique rien qu'en France dans ses restaurants. Alors ce chiffre semble tout de même un peu surestimé, mais ce qui est sûr, c'est que cette pollution, elle n'est pas négligeable, et cette initiative s'inscrit réellement dans une démarche écologique. Également, McDo a expliqué qu'ils voulaient réduire de plus en plus leur pollution plastique et qu'ils voulaient passer d'ici la fin de l'année à en dessous de la barre des 4% de plastique dans leurs emballages. Ils réfléchissent également à des alternatives, notamment pour retirer les couvercles des boissons chaudes, ce genre de choses. Alors, il est vrai que les pailles en plastique, ça ne constitue pas la majorité des déchets plastiques présents dans les espaces maritimes, mais il existe en effet pas de chiffre réel du nombre de pailles présents, mais ce qu'on sait, selon certaines études, c'est que par exemple les Américains, ils utiliseraient à eux seuls près de 500 millions de pailles en plastique par jour. Donc c'est tout simplement énorme. Ça représente donc une part non négligeable des 8 millions de tonnes de déchets plastiques qui se retrouvent chaque année dans les océans. De plus, les pailles en plastique représentent de nombreux problèmes. Alors déjà, elles sont pas nécessaires, elles sont même superflues. Elles constituent donc une pollution qui est assez facile à éviter, pour le coup. Aussi, elles sont de petite taille, elles sont assez légères, donc c'est rare de les retrouver dans les poubelles de tri. Elles peuvent s'envoler, elles peuvent se retrouver dans les canalisations, par exemple, et donc ne pas être triées comme il faut. Et également, y a un problème aussi pour les espèces et pour les animaux, car si vous vous souvenez, en 2015, il y avait une vidéo qui avait fait débat et qui avait tourné partout dans le monde. On voyait un scientifique qui retirait une paille en plastique qui était bloquée dans le nez d'une tortue de mer. Alors cette vidéo, c'est le point de départ de cette prise de conscience globale autour du problème des pailles en plastique. Il y a d'ailleurs de nombreuses campagnes qui ont fait leur apparition depuis, avec des noms accrocheurs, comme par exemple Straw Wars, qui signifie en français la guerre des pailles, en référence au film Star Wars, ou encore One Less Straw, qui a été créé à l'initiative de deux frères et sœurs, Olivia et Carter, qui ont respectivement 7 et 8 ans quand ils ont créé cette initiative. Donc voilà, dès très jeunes, ils ont voulu agir pour le climat. Il y a aussi l'acteur américain Adrian Grenier, fondateur de Lonely Wolf Foundation, qui est également une association donc, qui active et qui milite dans ses campagnes anti-paille, qui a expliqué dans une interview l'intérêt de cette lutte. Selon lui, c'est un bon moyen de commencer. Il explique aussi que souvent, les gens se retrouvent dépassés par l'importance du problème et qu'ils finissent par abandonner. Il dit qu'on a besoin d'établir des objectifs atteignables au quotidien pour tout un chacun. Si nous voulons relever le défi d'éliminer les pailles, si on y parvient, alors ce sera déjà un bon début et à partir de là, on pourra progresser dans cette lutte, car en effet, va falloir progresser dans cette lutte, il y a beaucoup de choses à faire et il y a aussi des lois qui arrivent, notamment une loi européenne qui a été votée il y a quelques mois à l'Assemblée européenne par les députés et qui donc stipule qu'à partir de 2021, il y a de nombreux produits en plastique à usage unique qui vont être interdits. Alors j'ai la liste, notamment les assiettes en plastique, les couverts, les pailles, les bâtonnets de coton-tige, etc., etc. Et donc si ces objets ont été choisis, c'est grâce à une enquête de la Commission européenne qui en fait a classé les objets les plus couramment trouvés sur les plages européennes. Donc cette liste représente 86% de l'ensemble des articles en plastique qu'ils ont trouvés sur les plages et près de la moitié des déchets marins. Donc ils ont essayé de vraiment cibler la chose pour réduire au maximum cette empreinte plastique. Et donc vous avez compris que cette mesure a pour but de réduire cette pollution plastique dans les océans. Alors il existe bien évidemment des alternatives. D'ailleurs, ces alternatives, selon l'Union européenne, encore une fois, représenteraient près de 30 000 nouveaux emplois qui seraient créés justement pour trouver, pour développer ces alternatives. On pense par exemple, pour les assiettes ou encore les couverts, à des alternatives, pourquoi pas en carton ou alors en bois, parce que le plastique, et l'un des problèmes du plastique, il se retrouve dans les océans aussi, parce que il est très mal recyclé. Selon l'association 60 millions de consommateurs, en 2018, un quart des emballages plastiques en France étaient recyclés, ce qui pose donc encore une fois un véritable problème écologique. Concernant les pailles en plastique, il y a des alternatives qui existent également. Vous avez peut-être déjà entendu parler des pailles en bambou ou alors encore des pailles en acier. Il y en a aussi des biodégradables. C'est donc des alternatives qui arrivent de plus en plus dans les bars et les restaurants et qui seront obligatoires ou alors il faudra s'en passer à l'horizon 2021. À Tours, j'ai notamment trouvé le bar qui s'appelle La Fabrique à Jus, qui est situé rue du Commerce et qui est un bel exemple car elle propose depuis plusieurs mois des pailles en acier et cette initiative a vraiment beaucoup plu aux clients au point qu'aujourd'hui, ils utilisent plus que ça dans leur restaurant. Alors il y a aussi des restaurateurs qui se plaignent et des responsables de bar que ces pailles coûtent quand même beaucoup plus cher que les pailles en plastique, donc c'est un vrai frein à cette transition. Certains vont même avoir, malheureusement seront obligés de ne plus en mettre parce que ça coûte trop cher, mais ils se rendent compte aussi que il y a des clients qui sont pas habitués à ça et qui réclament des pailles aussi, alors que encore une fois c'est un objet qui est pas forcément utile. Donc La véritable chose à faire, ça serait plus à nous, à chacun, de s'adapter et de se rendre compte que cette paille ne sert pas forcément à quelque chose et que, par contre, on ne sait pas où elle va finir et qu'elle va peut-être poser de gros problèmes de pollution. Donc, peut-être essayer de s'en passer, se servir des alternatives qui existent et de penser justement que si toutes ces choses sont mises en place et si on arrête d'utiliser ce plastique, eh bien, ça pourrait améliorer la situation et permettre aux océans d'accueillir moins de plastique et puis après, ça sera à nous de les nettoyer pour essayer de leur redonner leur forme d'antan, on va dire ça comme ça, et qu'ils soient plus propres pour toutes les espèces qui les occupent. Donc voilà.
Quelle belle conclusion tu
nous
fais là.
Ouais, je sais. J'essaye de faire des trucs comme ça.
Bon, on va se laisser. Merci Julien pour ta chronique et puis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Chloé.
Et on va partir sur du Serge Gainsbourg avec L'Hôtel Particulier avant de se retrouver avec nos invités.
Bonjour à tous les amis et bienvenue comme tous les jours dans votre émission Sortez. Alors aujourd'hui on a le plaisir d'accueillir Laura et Anaël de l'antenne Greenpeace Tour. Bonjour les filles.
Bonjour.
Bonjour.
Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter un petit peu et puis surtout ce qui serait intéressant c'est de nous dire pourquoi est-ce que vous avez eu envie de rejoindre Greenpeace ?
Oui alors Anaël, ça fait 2011 que je suis au groupe local. Enfin, d'abord j'étais à Grenoble puis maintenant je suis à Tours. Et le groupe local de Tours il existe depuis début 2015.
Donc
on est partie des premiers qui ont un petit peu lancé l'histoire groupe de Tours. Et moi je me suis beaucoup intéressée à Greenpeace par rapport à la campagne énergie. Donc développement des énergies renouvelables et l'arrêt du fossile et des nucléaires.
Très bien. Et toi Laura ?
Alors moi, je suis dans le groupe local de Tours depuis 2017. En fait, Anaël était une amie à moi à la base et elle m'a fait découvrir Greenpeace. Et effectivement, moi aussi, je m'intéressais aux énergies renouvelables notamment et à l'environnement en général, mais sans avoir vraiment de connaissances particulières. Et en fait, petit à petit, voilà, j'ai intégré le groupe et j'ai appris beaucoup, énormément de choses sur ce qui se passait. Sur l'environnement, sur les lobbies, etc. Et ça m'a vraiment donné envie de rester. Pour dire qu'il faut vraiment là, il faut faire quelque chose.
D'accord. Et est-ce que vous choisissez vous-même les actions instaurées dans cette antenne à Tours ? Ou est-ce que Greenpeace gère un peu toutes ces antennes d'une même façon, d'une même ligne directrice ?
En fait, dans le groupe local à Tours, pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe... Globalement, Greenpeace en France, Tours, et même à l'international, on a un petit groupe, une vingtaine de personnes. On se réunit une fois par mois pour expliquer ce qu'on va faire et puis se mettre d'accord sur le programme d'action sur le mois suivant. Et donc finalement, on choisit les actions qu'on va mener et on a des campagnes locales qui concernent vraiment Tours et puis la région, les environs. Notre engagement dans le collectif Touraine Climat. Et puis, on a aussi des actions qui correspondent à des calendriers internationaux, des actions de lobbying, de plaidoyer auprès des élus au niveau national pour faire poids. Ça nous arrive assez souvent de faire des actions tous ensemble, tous les groupes locaux de France, au même moment, à la même heure. Et comme ça, ça fait poids à la fois dans la presse et ça a du poids aussi sur les politiques. Et sur les entreprises qu'on vise dans nos campagnes. Donc c'est un petit peu le mode d'action Greenpeace.
D'accord. Bêtement vise.
Oui. Ouais, effectivement, le fait d'être dans une organisation comme ça, internationale et nationale, grosse, Greenpeace c'est une énorme ONG, qui en fait, donc nous effectivement on est les relais locaux de leur campagne. Donc c'est des campagnes internationales ou nationales, qui sont réfléchies. Il y a une stratégie qui est réfléchie à plus ou moins long terme, qui commence par réaliser des études scientifiques, des études de terrain, puis alerte, puis Greenpeace. On va alerter les gouvernements ou les personnes concernées, les entreprises concernées qui font des désastres, qui détruisent l'environnement, par exemple. On leur remet un rapport, on leur fait des propositions de solutions et donc si on est écouté très bien, mais en général c'est pas le cas, ce qui fait que il y a les relais locaux, comme voilà, les groupes locaux vont faire de la sensibilisation pour amener déjà les gens à prendre conscience de cette problématique en particulier. En général il se passe toujours rien. Et donc là, Greenpeace, au niveau national, voire international, va faire des actions choc. Par exemple, faire un feu d'artifice dans une centrale nucléaire. Les gens sont déjà un peu au courant des problèmes des centrales nucléaires, au moins par rapport aux actions que nous, on a réalisées. Voilà, ce qui permet de faire... Voilà, c'est une stratégie globale pour faire pression petit à petit, parce que... Il faut qu'on arrive à être écouté médiatiquement et pour ça, il faut mettre les moyens.
Est-ce que Où est le siège social principal, le bureau le plus important de Greenpeace?
Dans le monde?
Dans le monde. J'avais entendu Amsterdam, mais
ça.
C'est ça, ça doit être ça.
Ouais, c'est Amsterdam qui a les bureaux de Greenpeace International. Et après, on a des bureaux nationaux. Et donc, pour la France, c'est à Paris.
Très bien. Et vous aviez... alors, Laura, je crois, tu as dit tout à l'heure qu'en rentrant dans cette association, dans Greenpeace, tu avais appris un peu comment le monde, en quelque sorte, fonctionnait. Et je me demandais, du coup, quand on devient bénévole, est-ce qu'on suit une formation, en quelque sorte? Est-ce qu'il y a des formations pour après servir, en quelque sorte, les causes de Greenpeace?
Alors, ça peut. Sachant que, du coup, il y a énormément d'informations à accumuler. Donc, sachant que Greenpeace, on a plusieurs campagnes. La campagne forêt contre la déforestation, la campagne océan contre notamment la surpêche, la campagne agriculture, plus de bio, etc., agro-agriculture, la campagne nucléaire, la campagne climat, voilà, énergie renouvelable. Du coup, en général, les bénévoles, on est plus ou moins attirés aux spécialistes envers une campagne. Et Greenpeace France, effectivement, parfois, notamment lorsqu'on va démarrer une nouvelle campagne, propose des formations. Moi, j'en ai fait une, par exemple, 2 mois après mon arrivée dans le groupe local. Voilà, il y a aussi une relation vraiment de confiance entre militants et même entre les militants et le siège qui se trouve à Paris. Voilà, donc on a des formations spécifiques, effectivement, si on le veut.
D'accord. Dernière question un peu sur l'organisation de Greenpeace. Comment financez-vous les actions?
En fait, Greenpeace, c'est une association, une ONG qui a l'avantage d'être totalement indépendante financièrement. On est financé uniquement par les dons des gens qui soutiennent nos actions. Il n'y a aucune subvention d'État, de collectivité, il n'y a pas non plus de financement d'entreprise. On est totalement indépendant et ça nous permet d'avoir des actions choc vraiment ciblées. Qui sont vraiment dont le but est de faire avancer les choses pour l'environnement, l'écologie,
oui, et vous restez libre du coup de vos idées, de ce que vous voulez véhiculer, quoi.
C'est ça.
D'accord. Et bien, quelles sont les revendications, j'allais dire internationales, les plus importantes en ce moment? Sur quoi est-ce que la ligne de conduite est-elle instaurée en ce moment?
Là, il y a une grosse campagne qui vient de se lancer sur Amazon, qu'on soutient au niveau international par rapport justement au Black Friday, au Vendredi Noir de la surconsommation. Donc on peut retrouver les informations sur le site internet de Greenpeace à travers un appel Stop Amazon qui propose en fait, enfin qui démontre cet appel qui a des énormes problèmes liés à ce mode de consommation qui pousse à la surconsommation, qui échappe à l'impôt à travers des subterfuges, des sociétés de web services qui ne contribuent pas, voire détruisent en fait l'emploi local lié aux commerces locaux en promouvant des emplois dans des gros hubs d'Amazon. Il y en a un d'ailleurs dans notre région, dans le Loiret, qui a été mis en place et qui incite à la consommation avec des prix cassés et qui nous fait oublier en fait l'importance du local, du lien et de la consommation responsable. Donc ça, c'est une grosse campagne juste actuelle qui est très très en lien avec le climat, en fait, la surconsommation, le climat. Et il y a une énorme campagne actuellement aussi sur les océans, avec la protection des océans au niveau international. Le dernier sommet de l'ONU avait un point spécifique sur la préservation des océans et Et Greenpeace a porté l'importance de mettre en place 30% de réserves océaniques dans le monde. Donc voilà, c'est nécessaire, c'est indispensable. Donc ça, c'est vraiment nos campagnes. Bon, il y en a plein à travers le monde, hein, mais...
Et au niveau France aussi, il y en a plein, parce qu'on a un gouvernement qui ne va pas dans le bon sens. On a notamment en France le nucléaire, parce que je ne sais pas si on est le pays le plus nucléarisé au monde, sûrement par rapport au nombre d'habitants. En tout cas, nous, on est la région Centre-Val-de-Loire la plus nucléarisée au monde, donc on est bien concerné avec nos 4 centrales nucléaires au bord de la Loire. Voilà, donc il y a pas mal d'actions par rapport à ça. On a aussi au niveau national des revendications à cause de la déforestation liée à l'importation d'huile de palme, importation par la France. On a aussi du coup une grosse campagne climat aussi, dont le slogan de Greenpeace France, c'est Macron, roi du blabla. Parce que, voilà, effectivement, il ne met pas en place les actions qu'il faut. Il y a une grosse partie, effectivement, on peut dire, oui, mais il faut faire des éco-gestes, il faut être des consommateurs responsables, etc. Peut-être, mais ça représente, 25%, même si tous on s'y met à fond, il nous restera encore 75% d'efforts à faire sur les émissions de gaz à effet de serre, et ces 75% sont liés aux actions du gouvernement. Il faut mettre en place des infrastructures, il faut donner les moyens aux citoyens pour qu'ils fassent des choses, quoi. Donc Greenpeace, c'est ça, il faut dénoncer vraiment ceux qui ont le pouvoir de faire quelque chose, et c'est pas fait aujourd'hui.
D'accord. Anaëlle, tu as parlé un petit peu des océans tout à l'heure, et comment les préserver. Et du coup, pourquoi pas parler un petit peu de la flotte arc-en-ciel, du coup, de Greenpeace. Je me disais, pourquoi ces bateaux sont un moyen important pour témoigner et agir contre les destructions et les pollutions infligées à notre planète.
Oui, alors on a 3 bateaux à Greenpeace. On a le Rainbow Warrior, qui est très connu historiquement, notamment en France, puisque c'était en 1985, les services secrets français ont fait un attentat contre ce bateau, ont coulé le bateau et ont tué le photographe Fernando Pereira, qui était à l'intérieur. Il y a aussi l'Esperanza, qui est un bateau aussi important pour Greenpeace. C'est le bateau qui permet d'avoir aussi un héliport. Donc il est assez grand, et ce bateau est capable d'aller dans des eaux assez froides aussi. Un bateau avec une coque qui est renforcée, et c'est les adhérents de Greenpeace qui ont choisi son nom. Okay. Voilà. Puis il y a l'Arctic Sunrise qui, comme son nom l'indique, est capable d'aller dans les eaux très très froides. Et, donc ces 3 bateaux un peu complémentaires. Le Rainbow Warrior, du coup, c'est celui qui a coulé, a été remplacé. Aujourd'hui, c'est le Rainbow Warrior 3. Donc, il a des caractéristiques. Il est très, très exemplaire comme bateau en termes d'émissions de gaz à effet de serre. C'est un bateau à voile. Même s'il est très grand, il a quand même des voiles. Et ils permettent de témoigner, de faire aussi d'accueillir des équipes de recherche qui permettent d'aller faire des prélèvements, témoigner de problèmes à certains endroits. Par exemple, on a eu une campagne il y a 2 ans sur l'Amazon, le récif de l'Amazon, et Total qui souhaitait forer dans un récif corallien tout récemment trouvé, en fait, à l'embouchure de l'Amazon au Brésil. Et du coup, Greenpeace, avec son bateau, a permis d'aller faire des prélèvements, voir qu'est-ce que c'était que ce récif qui était inconnu, en fait, jusqu'alors. Et ça a permis de documenter la recherche, les scientifiques, et de donner des arguments pour protéger ce milieu très important pour la recherche sur la biodiversité dans les océans, notamment, qui est très mise à mal avec le réchauffement climatique.
Merci beaucoup à toutes les deux. Je laisse la parole à Chloé pour la première pause musicale.
Et on part sur un groupe dont le nom me fait toujours autant rire. Le groupe, c'est Moi Je, et la musique, c'est Continue.
We'll be right back.
De retour sur le plateau de Sortez avec Laura et Anaël. Pour ceux qui nous rejoignent, Laura et Anaël, du coup, sont venus nous présenter aujourd'hui l'association Greenpeace. Alors, prochaine question. On aurait aimé savoir historiquement quelles sont les plus grandes campagnes et actions de Greenpeace qui ont été menées.
Historiquement, la première campagne de Greenpeace, c'était le démarrage, le Phyllis Cormac, un bateau qui a été affrété par quelques militants pour aller dénoncer les explosions, les essais nucléaires américains dans le Pacifique. Et du coup, ce bateau devait aller sur le lieu des essais nucléaires pour les empêcher par l'interposition passive, non violente. Et finalement, le bateau n'a pas réussi à aller sur le lieu parce qu'il n'était pas assez solide, pas assez performant. Mais ils ont réussi à capter l'attention de tout le monde à l'époque. Ça a fait un grand, grand bruit médiatique. Et leur action était très courageuse parce que c'est un endroit où c'était assez dangereux d'aller avec un bateau de cette taille. Et quand ils sont revenus, en fait, un an après, les essais nucléaires ont été arrêtés. Les États-Unis ont abandonné les essais nucléaires à cet endroit-là.
D'accord. Il y a d'autres événements importants ?
Oui, par exemple, le moratoire sur la chasse à la baleine, qui a été aussi l'une des premières campagnes internationales. Également, l'Antarctique, qui n'appartient à personne, qui est libre. On ne peut pas aller exploiter les ressources qui sont dans l'Antarctique. Donc voilà, ça c'est vraiment les campagnes historiques de Greenpeace. Et depuis, il y a eu pas mal de victoires, même en Europe, la mise en place de politiques sur les déchets dangereux, une directive REACH. Il y a eu notamment une dernière victoire, mais bon, il faut encore la mettre en œuvre l'année dernière avec la loi EGalim alimentation, qui a mis en place un repas végétarien obligatoire par semaine dans les cantines scolaires, qui permet de réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre des repas des enfants. C'est assez énorme. Et puis, quand on sait que la viande proposée dans les cantines est de très mauvaise qualité et est souvent génératrice de gaz à effet de serre, ça, voilà, c'est une des dernières victoires qu'on peut citer.
Alors, c'est assez intéressant parce que c'est une très bonne façon d'aller vers ma prochaine question. Sur votre site Facebook, donc de l'antenne de Tours, vous dévoilez que Greenpeace décerne à Lille sa première écharpe cantine verte pour ses repas végétariens. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce projet ?
Oui, effectivement, on décline cette campagne nationale au niveau local. Chacun dans nos villes, on va essayer de démarcher les cantines pour qu'elles mettent en application la loi. Parce que c'est pas parce qu'il y a une loi que c'est forcément fait. Alors à Tours, ben justement. Donc l'idée, c'est de mettre en place dans les villes au moins un repas végétarien par semaine, ce qui est le minimum dit par la loi. Après, on peut être plus ambitieux. L'idée, c'est de mettre en place ces repas végétariens dans les cantines, parce qu'on a vu que c'est très rare que ce soit fait. En général, c'est un repas végétarien par mois. Et à Tours, ce n'est pas appliqué. Donc, je lance même un appel. Si des personnes sont intéressées à s'occuper de cette campagne, nous, on la débute, en fait. On a besoin de monde, notamment, puisqu'on est sur plusieurs campagnes. Donc, je sais que ça peut intéresser pas mal de monde. Donc, contactez-nous sur notre Facebook, sur notre boîte mail. L'idée, donc, c'est d'arriver à mettre en application le plus vite possible, voire être plus ambitieux sur ces repas végétariens dans les cantines. sachant que voilà, dans les cantines sont servies de la viande souvent industrielle, parce que ça coûte cher la viande. Alors imaginez la viande bio locale, c'est compliqué de servir ça tous les jours. Et cette viande industrielle, ça représente donc 14% des émissions de gaz à effet de serre, 80% de déforestation en Amazonie, l'élevage juste bovin. Voilà, donc c'est une campagne effectivement qui locale, mais avec des enjeux derrière forts. Il faut vraiment, c'est compliqué à mettre en place, enfin voilà, à changer en tout cas les mentalités. Et c'est pour ça qu'il y a un gros travail de sensibilisation à faire, et qui mieux de placer que nous, les groupes locaux, pour ça. Voilà.
Et c'est du coup très intéressant aussi de faire cette campagne envers un public, enfin des enfants en fait, parce que c'est aussi les sensibiliser, les éduquer à peut-être le monde de demain aussi.
Ouais, exactement. Alors effectivement, en plus c'est l'âge, donc là on va notamment agir sur les écoles maternelles et primaires, parce que c'est les mairies qui choisissent leur menu, et donc c'est à cet âge-là où se forment leurs goûts. Donc autant mettre des produits peu gras, de qualité, peu salés, peu sucrés. Et en plus, c'est mauvais pour la santé. Greenpeace a sorti un rapport sur ce que mangeaient les enfants aujourd'hui dans les cantines. Eh bien, ils mangent, je crois, 6 fois trop de protéines. C'est ça, ouais.
De 2 à 6 fois plus.
Okay. Ce qui est très mauvais pour la santé.
C'est à l'origine de maladies comme le diabète, et les problèmes cardiovasculaires plus tard, le surpoids. Et manger trop de viande, en fait, c'est mauvais. Souvent, on dit l'inverse. Vos repas, si vous ne mangez pas assez de viande, ce ne sera pas équilibré. Mais en fait, aujourd'hui, ce qu'on sert à nos enfants dans les cantines, ce n'est pas bon. Et ça les rend malades.
Exactement. Une autre de vos actualités, c'était le 23 novembre. Et vous étiez aux Assises nationales de la Fédération des maisons des lycéens. Si je ne me trompe pas, c'était à Blois. Mmh. Et alors, c'était centré cette année sur la mobilisation pour le climat et l'environnement. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette journée et nous dire un peu de quoi vous avez parlé ?
Oui, tout à fait. C'était vraiment intéressant. Donc, c'est une journée qui est organisée uniquement par les lycéens eux-mêmes. Donc, c'était très ambitieux. Une rencontre nationale des maisons des lycéens organisée par des élèves. Donc en partie mineure, enfin voilà, c'est vraiment très ambitieux. C'était très bien organisé. On a commencé le matin par faire participer à une formation. En fait, on a apporté des éléments de formation sur l'énergie à travers la présentation du scénario Virage Énergie Négawatt qui propose un virage énergie vers 100% d'énergie renouvelable en 2050 pour la région. Centre. Et derrière, les problématiques liées notamment aux déchets nucléaires, parce que ce scénario 100% renouvelable, il nous permet de nous passer à la fois du nucléaire et des énergies fossiles. Donc c'est vraiment un grand progrès. Et puis d'autres des solutions pour aller vers des énergies renouvelables, comme la coopérative Enercop, qui permet de s'alimenter en électricité 100% renouvelable, locale, équitable, entre guillemets. Donc on était en association, les trois associations, Virage Énergie, Greenpeace, Enercop, à parler avec les lycéens qui étaient très intéressés, avec lesquels on a bien parlé. Et ensuite, on a tenu un stand pendant la journée pour discuter avec les lycéens, les professeurs, les élus aussi qui étaient présents à cette journée, et notre directeur général Jean-François Julliard a été présent aussi et a été invité à une conférence débat avec Charles Fournier, qui est un élu, le vice-président à la transition énergétique de la région, donc porte notamment la COP régionale. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais c'est une initiative de la région qui permet de donner un peu de visibilité à toutes les initiatives citoyennes sur la transition écologique et citoyenne. Donc, c'était assez intéressant de voir ce débat. voilà, il y avait beaucoup de lycéens qui ont posé des questions intéressantes, à la fois sur le stand, à la formation, à la conférence. On a trouvé vraiment impressionnant le niveau d'intérêt des jeunes pour le sujet. Je ne suis pas sûre que les jeunes, ce soit un problème pour nous. C'est plutôt une solution.
Question un petit peu différente. Je me demandais, qu'est-ce que vous mettez en place hors Greenpeace dans votre vie de tous les jours pour vivre davantage en harmonie avec l'environnement et réduire votre empreinte sur ce dernier? Ça peut donner des exemples en quelque sorte à nos auditeurs et à moi-même d'ailleurs.
Ouais, bah, moi c'est venu petit à petit, effectivement, à partir du moment où je suis arrivée chez Greenpeace notamment, de moins manger de viande. Ouais. J'en mange toujours un petit peu, mais vraiment pas beaucoup. D'acheter le plus possible bio, déjà, non seulement pour ma santé. Bref, c'est pas la première raison. C'est la première raison, c'est que je veux pas qu'il y ait plus de pesticides. Enfin, payer une nourriture où on a mis des pesticides dans la terre pour ça. Voilà, essayer d'acheter le plus possible zéro déchet. Donc, ça existe à Tours, hein, des épiceries, des biocoop zéro déchet, enfin, où on peut acheter des choses zéro déchet. Voilà, dans des bocaux, des tupperwares, etc. Je me déplace à vélo, mais bon, ça c'est facile. J'habite pas loin du centre-ville et de mon travail. Voilà, essayer de réfléchir. Alors, ça c'est en réflexion de la mobilité. Quand je veux aller quelque part, est-ce que je suis obligée d'y aller en voiture? Est-ce que je suis aussi obligée d'y aller? Enfin, et commencer petit à petit à se poser des questions. Est-ce que vraiment j'ai besoin de ça? Oui, j'ai plus dans les magasins, c'est fini. Si je veux m'acheter un habit, je vais dans une friperie, quoi. Parce qu'on a déjà, les vêtements, il y en a déjà beaucoup, c'est pas la peine d'en fabriquer d'autres. Voilà.
Et toi, Naël?
Ouais, c'est un petit peu pareil. Sur l'alimentation, je mange très peu de viande. En tout cas, pas du tout au quotidien. Plutôt, je dirais, une fois par mois, il y a le poulet de la MAP. Et après, je fais partie d'une AMAP aussi, c'est dans mon AMAP que je récupère les produits locaux, donc les légumes, les légumineuses, les céréales, le pain, le fromage aussi, un petit peu. Mais il n'en faut pas trop, faudrait réduire un peu plus. Et puis, j'ai choisi de pas avoir de voiture. J'ai jamais acheté de voiture jusqu'à maintenant. Voilà, j'ai presque 30 ans, donc pour l'instant je m'y tiens. C'est pas évident parce que les services de train se dégradent vraiment beaucoup et ça devient beaucoup plus cher, voilà. Mais du coup je me bats pour que ces services de transport en commun puissent continuer à perdurer et être accessibles au plus grand nombre.
Oui, et l'avion aussi, c'est important. Parce qu'au début, on me regardait tous comme une extraterrestre qui ne voulait pas prendre l'avion. On me dit, mais qu'est-ce que tu vas faire de tes vacances? Je ne comprends pas. Et juste aujourd'hui, je vois l'évolution. Plus en plus de gens comprennent la situation. Donc, même en un an ou deux, j'ai vu un changement de mentalité par rapport à ça.
Alors, pour finir, il nous reste plus beaucoup de temps, mais je trouve que cette question est assez importante. Alors voilà, Greenpeace est une ONGI, donc une organisation non gouvernementale internationale. Elle est présente dans plus de 55 pays à travers le monde et à l'origine, j'ai appris qu'elle fut fondée en 1971 après le mouvement Don't Make a Wave Committee, visant à s'opposer aux essais nucléaires aux États-Unis. Mais encore aujourd'hui, cette cause est l'une des plus importantes à vos yeux. Alors, pourrez-vous revenir sur l'histoire du nucléaire en France? C'est pas trop ça, c'est en tout cas quels sont les dangers du nucléaire et pourquoi devons-nous changer de mode de production d'énergie?
Le nucléaire, c'est un vrai danger en France. On a 58 réacteurs qui sont disséminés un petit peu partout pour la production d'électricité. Cette production d'électricité est très centralisée, intense et du coup souvent gaspillée. On a énormément de chauffage électrique en France parce qu'on a ces centrales nucléaires et qu'il faut bien utiliser l'électricité. Et le chauffage électrique, c'est loin d'être la meilleure solution pour se chauffer. C'est pas ce qu'il y a de plus efficace. le nucléaire, ces centrales, elles ont été construites entre 1970-1990, un petit peu dans les années 90. Donc elles arrivent progressivement à 30 ans. Là. Donc c'est leur dernière visite décennale. Elles ont été conçues pour être exploitées 30 ans. Donc c'est la fin, là. Donc y a des éléments dans une centrale, notamment la cuve, là où il y a le combustible nucléaire qui bout, et l'enceinte de confinement en béton, c'est un gros bâtiment, les piscines aussi, où il y a le combustible usé, qui sont des éléments qui ne peuvent pas changer. On peut pas les... Voilà, c'est conçu pour une certaine durée, et puis au bout d'un moment, ça se dégrade avec le temps. Donc, si on doit EDF a notamment le projet de prolonger la vie de ces centrales pour pouvoir les exploiter plus longtemps, ça demande un investissement énorme de faire ça. Donc, c'est en moyenne 1 million d'euros par réacteur, donc 58 réacteurs, c'est très très cher. Donc, y a un problème aussi... à la fois sur la dégradation de la sûreté avec le vieillissement, la dégradation liée à la sécurité, parce qu'aujourd'hui, on est soumis à des risques importants liés à des actions malveillantes, des terroristes qui pourraient avoir comme idée un peu bête de viser des points sensibles dans les centrales. Et les points sensibles dans les centrales, ils sont connus de tous. On peut les avoir sur Internet. Greenpeace a sorti un rapport qu'il a délivré au gouvernement, mais seulement au gouvernement, de manière secret défense, pour dire qu'il y avait vraiment des failles de sécurité hyper importantes. Et il y a les déchets nucléaires qui sont un fardeau. Il y a des déchets qui sont à vie longue, qui ont une période de demi-vie de 24 000 ans. Donc on se rend pas compte, hein, 24 000 ans, qu'est-ce que c'est je ne sais plus ce que c'est Homo sapiens, mais c'est à peu près l'ordre de grandeur, quoi. Enfin, c'est Homo sapiens sapiens, 24 000 ans, voilà. On ne se rend pas compte, 5 000 ans, c'est les pyramides d'Égypte. 2000 ans, c'est l'an zéro. Donc, c'est assez important. Ces déchets nucléaires, donc il y en a beaucoup. Ils sont disséminés aussi partout, dans les sites de stockage un peu partout. Ils peuvent fuir. Voilà, c'est des dangers pour l'environnement toxique. Y a énormément de problèmes. Le coût, le PR, qui, ça fait plus de 10 ans qu'on essaye de le construire. Il coûte 12 milliards d'euros, on n'y arrive pas. Qu'est-ce qu'on va faire ? Enfin, c'est une fausse solution pour le climat aussi, parce que si on passait au tout nucléaire aujourd'hui, il faudrait vraiment énormément investir dans les infrastructures béton pour pouvoir construire ces centrales. Ce serait peut-être pas possible, il n'y aurait pas assez d'uranium pour les alimenter toutes. Et aujourd'hui, ça ne représente que 2 à 3% de la consommation d'énergie dans le monde, les centrales actuellement construites. Donc si on voulait que ce soit dans le monde une solution pour le réchauffement climatique, il faudrait augmenter de 98% la production de nucléaire dans le monde. Enfin, en fait, c'est totalement impossible. Ça ne répond pas aux besoins. Le besoin, c'est les transports. Le besoin, c'est l'alimentation. Le besoin, c'est le chauffage. 50% de nos besoins, nous, dans notre région, dans France, c'est le chauffage. Et voilà. Donc, c'est une fausse solution pour le climat, le nucléaire, aujourd'hui. Et peut-être, je ne sais pas si vous avez envie de participer au mouvement pour le climat. Sachez que à Tours, on va faire un Climate Friday à 13h30 au centre-ville de Tours, une grande manifestation organisée par Youth for Climate, par ANV COP21, auquel nous aussi on a participé à travers le collectif Climat.
On les reçoit demain d'ailleurs.
Ouais, super, ouais. C'est génial, parce que c'est une super occasion d'aller manifester, dire qu'on a envie que les choses avancent. Il y aura une action de désobéissance civile dans l'après-midi pour manifester contre la surconsommation liée à ce Black Friday. Et à 18h, une soirée des alternatives avec les discours des différentes associations qui participent au collectif climat, avec un concert. Et voilà, tout le monde apporte son thermos. Il y aura une disco soupe, voilà. Donc il faut venir pour connaître les associations, pour agir, parce que comme on l'a dit, les actions individuelles sont pas la solution non plus. Il faut des actions collectives, et c'est en créant du lien qu'on trouve à travers les associations aussi qu'on pourra arriver à changer vraiment les choses.
Complètement. On détaillera tout ça demain. Merci beaucoup les filles d'avoir participé à notre émission. J'aurais bien aimé pouvoir discuter un peu plus, mais voilà, rendons le micro à Chloé pour en savoir plus sur l'agenda de ce soir.
Merci beaucoup.
Merci.
Et sur la dernière petite musique, avant de partir, sur notre agenda, on va passer du Lompal avec Ray Liotta.
Ça veut dire quoi le bien? Je suis né, j'ai pas tout compris. C'est pas gentil d'être méchant, mais c'est plus rentable que le bonheur des gens. La misère ça impressionne moins qu'un salto. Ça les ennuie comme le goût de l'eau plate. Ah, ce monde c'est une bonne blague. Je lis les nouvelles pour me faire les abdos. Tu vas trop vite, tu perds beaucoup de points. Mais si t'es spontané, t'es dans le vrai. Un gros mot qui dérape en coup de poing. Un bisou qui dérape en le vrai. T'aimes te battre quand tu sors, mais même si t'as le regard de Ray Liotta, ton corps peut finir en désordre, comme les phrases de Maître Yoda. Mais on s'habitue, bientôt ça me fait plus d'effet. Tu le sais, on s'habitue. Oh non, bientôt ça me fait plus d'effet. Mais on s'habitue, bientôt ça me fait plus d'effet. Tu le sais, on s'habitue. Oh non, bientôt ça me fait plus d'effet. Ça me fait défaire. Les prochaines années sont glauques. Chacun se bat pour son clan. Une fille bien dans la maison close. Une pute dans la maison blanche. Je suis né, j'ai pas tout. Ah, ok. Je suis né, j'ai pas tout compris. Si tu cherches des sensations fortes, la mort peut te faire un bon prix. Les pauvres gentils désespèrent. Les méchants les ont laissés sperre. Mais pour eux c'est dans la poche, comme une amende réglée avec des espèces. Personne ne veut perdre son poste. Pour elle dinero, pour elle papel. Elle est douée mais elle est pas belle. Elle va devoir convaincre son boss. Aïe. Hey, on s'habitue. Bientôt ça me fait plus d'effet. Tu le sais, on s'habitue. Oh non, bientôt ça me fait plus d'effet. Hey, on s'habitue. Bientôt ça me fait plus d'effet. Paraît que la vie sur terre c'est un échantillon. L'enfer est flambant neuf, le paradis en chantier. Même si t'es gentil, on t'oubliera comme le premier i de suicide. Les crimes, les guerres, le passé, c'est pas mon problème. Mais la suite si. Je viens de naître, j'ai rien demandé. Mais je vais me faire plaisir maintenant que je suis ici. Mais on s'habitue. Bientôt ça me fait plus d'effet. Tu le sais, on s'habitue. Oh non, bientôt ça me fait plus d'effet. Mais on s'habitue. Bientôt ça me fait plus d'effet. Tu le sais, on s'habitue. Oh non, bientôt ça me fait plus d'effet. Ça me fait plus d'effet.
Et on se retrouve tout de suite pour l'agenda. Pour votre agenda du 27 novembre, c'est le retour des Russian Party à l'Outback Bar. Pendant 5 jours, dégustation à la russe. Dès l'ouverture du bar, ce sera un shot acheté, un shot offert. La nuit se rythmera au bon son de la cloche, c'est-à-dire 1 plus 1 égale 3. Dans toutes les tailles, rappel, l'alcool est dangereux pour la santé. C'est ce soir de 18h à 2h à l'Outback Bar. Dans un tout autre registre, la Bibliothèque municipale de Tours vous propose un film de Gabriel Axel. Le curé de Tours, réalisé à la base pour le petit écran, il est l'adaptation du roman éponyme de Balzac. Pour retrouver l'histoire de l'abbé Birotteau, c'est ce soir de 19h à 21h à la Bibliothèque municipale de Tours. Le père Mora viendra vous présenter sa thèse sur la philosophie de l'être inspirée par Gilson, Heidegger et saint Thomas d'Aquin. Il vous proposera de venir échanger lors d'un dîner littéraire et c'est ce soir de 19h à 22h à l'Ibis Tour Centre Gare, 1 rue Maurice Genest. Rendez-vous pour toutes les écoles de Tours. Vous pensez que la vôtre est la meilleure? Venez vous défier au beer pong par équipe de 2 aux couleurs de votre école. Vous pourrez aussi venir en supporter ou même juste faire un beer pong hors compétition entre amis. Rendez-vous ce soir de 21h30 à 1h à l'étape 84, 84 avenue Gramont. Et c'est tout pour l'agenda de ce soir. On se donne rendez-vous demain à 17h, pareil. On n'oublie pas que cette émission sera en rediffusion demain matin de 6h à 7h, que le podcast sera disponible sur toutes les plateformes. Maintenant, à 18h dans quelques secondes, ce sera le Flash RFI, 18h15 Ghetto Blaster et 20h30 Backstage. Bonne soirée, amusez-vous bien et à bientôt sur Radio Campus.
Radio Campus Tours, 99.5.
Et sur internet, radiocampustours.com.